La dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio, c'est quand Michael Jackson était encore noir.
The Cure.
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h, passé de 2 minutes.
Et c'est l'heure du Canu Info.
Et d'ailleurs, ce soir, on va parler de forêts incendiées par des essais militaires.
On va parler de flics et encore de flics.
Et puis, on regardera ce que Acrimed qui se demande où était passé le pluralisme à la radio pendant le confinement.
Ensuite, on aura la rubrique « Faut que ça sache », on ira faire un tour du côté de Lisbos, où le camp de Moria est en train de brûler.
Et puis un tour du côté de Malte, la Méditerranée, toutes ces choses-là.
Voilà, et puis on reviendra sur un député LREM qui harcèle sa femme en instance de divorce.
Vous allez voir, c'est une bonne histoire.
Du mercredi.
Alors d'abord, on va revenir sur ce qui s'est passé vendredi dernier où 400 hectares partaient en fumée à Capiteux, en Gironde, dans les Landes. Est-ce que c'était une cigarette mal éteinte, un campeur imprudent? Non, rien de tout ça. Le feu est parti d'un camp militaire, un lieu d'exercice au tir pour des appareils de l'armée de l'air, et fait suite à un tir de munitions. Résultat, une cinquantaine de pompiers mobilisés après cette belle bourde, qui n'est pas la première, puisqu'en mars 2017, c'était 1300 hectares de végétation qui avaient été détruits dans l'enceinte du camp, 500 hectares en juillet de la même année après le lancement d'un missile air-sol, et 750 hectares en 2014. Une équipe de pompiers est pourtant présente en permanence sur le site, une abondance de moyens donc qui n'empêche pourtant pas la forêt de brûler pour le bien du progrès militaire. Ce camp des Landes ne semble pas être une exception, et les feux sont aussi monnaie courante sur les sites militaires de la Marne ou encore en Sardaigne.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et pour les gens qui lisent Rebellion, je vais rien vous apprendre, mais pour les autres, figurez-vous que le chef des CRS qui ont tué Zineb Redouane a été promu à la tête d'une compagnie lyonnaise. Alors Zineb Redouane, je vais faire très vite pour les gens qui auraient vraiment raté les épisodes, mais en décembre 2018, pendant au tout début du mouvement des Gilets jaunes à Marseille, grosse manif de gilets jaunes, des flics qui tirent dans tous les sens. Une vieille dame de quelque chose comme 80 ans s'avance pour fermer sa fenêtre au moment où un CRS, elle est au je sais pas combien tième étage, en tout cas vraiment haut dans l'immeuble. Au moment où elle s'avance pour fermer sa fenêtre, elle se prend en pleine poire une grenade lacrymogène. Elle ne meurt pas tout de suite, elle meurt le lendemain à l'hôpital. Et la justice derrière va faire de son mieux, c'est-à-dire que le procureur va quand même commencer par dire pendant très très longtemps qu'on ne peut établir aucun lien entre le fait qu'elle ait pris cette grenade en pleine tronche et le fait qu'elle soit morte le lendemain sur la table d'opération. Voilà, ça c'était la justice. Mais du coup, voilà. L'enquête a eu lieu, l'enquête a été longue, l'enquête a été compliquée, l'enquête n'est toujours pas terminée. Mais à la fin, on a réussi à isoler, on pourrait dire, un petit groupe de CRS. Ils sont 5 suspects. C'est un des 5, forcément, qui était là avec son lance-grenade. Aucun des 5 ne veut dire quoi que ce soit. Et voilà, et pour l'instant, ça s'arrête là. Disons que pour l'instant, ça s'arrête là. Donc, aucune lumière n'a été faite sur ce tir, nous explique Rebellion, blablabla. Et surtout, le chef de la compagnie de CRS, qui s'appelle donc Bruno Félix, avait, au moment où l'IGPN, qui quand même a été saisi, et ma foi, l'IGPN, avec tout le zèle qu'on lui connaît, a essayé de faire la lumière, Bruno Félix, le chef des CRS, avait dit qu'il était hors de question qu'il donne à l'IGPN les armes, les lanceurs de grenades lacrymogènes, de manière à ce qu'il puisse les expertiser. Il était hors de question parce qu'il en avait besoin, c'est tout. Et du coup, c'est vraiment qu'il y avait une enquête. Et lui, il a juste dit non, je ne donnerai pas les pièces à conviction, en quelque sorte. Alors voilà, ce Bruno Félix, il a d'abord été décoré. Il a reçu en 2019 la médaille de la sécurité intérieure des mains de Christophe Castaner. Mais ça, on va y revenir comme beaucoup d'autres flics. Et là, il vient donc d'être promu à la tête d'une compagnie lyonnaise, la CRS 46. Et donc, le Média, c'est pas tous les jours que je relais des infos du Média, dites donc. Le Média qui nous dit que la CRS 46 est une compagnie convoitée parce qu'elle est proche de la direction zonale, qu'elle est bien notée et qu'elle dispose d'un centre de formation. En gros, ce qui se passe, c'est que Bruno Félix va, avoir des primes aux résultats exceptionnels, ça veut dire qu'il va avoir du pognon. De toute façon, c'est de l'avancement et c'est aussi une marche vers plus d'avancement. Rebellion nous dit que cette promotion est doublement inquiétante parce qu'elle annonce l'arrivée à Lyon d'un capitaine qui couvrira toutes les exactions de ses hommes, bon jusque-là d'accord, et parce qu'elle prouve qu'être responsable de la mort d'une femme arabe est considéré par l'institution policière comme un acte de bravoure qui justifie une promotion. Ça c'est le commentaire de Rebellion. Alors Rebellion bien sûr joue un peu la naïveté pour mieux pouvoir s'indigner. Mais pour ma part, je trouve que ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin dans le truc. Et donc, je pense pas que ça soit réellement la mort d'une femme arabe qui soit vue comme un acte de bravoure, ça voudrait rien dire. Mais je pense, c'est plus probable, et c'est finalement pas si éloigné quand même de ce que dit Rebellion, que le gouvernement Macron veut garder à tout prix la confiance des flics, et la confiance des flics dans le fait qu'ils seront couverts, et qu'ils seront couverts quand il s'agit de réprimer une manif. Quand le préfet ordonne aux flics d'y aller franco, il ne faut pas que les flics se retrouvent en insécurité juridique, comme ils disent, et qu'ils se demandent, au moment de se servir d'une arme, alors plus ou moins non létale, s'ils risquent à un moment ou un autre un procès. Il faut vraiment éviter ça. Alors, non seulement ce chef CRS, qui donc refuse d'apporter les éléments à l'enquête, est promu, mais on se souvient du coup de cette vague de médailles qui avait été donnée à plein de flics impliqués dans des blessures graves ou plusieurs trucs dégueulasses plus ou moins médiatiques au moment des Gilets jaunes. C'était l'été dernier, c'était en juillet. Donc Bruno Félix avait eu la médaille de la sécurité intérieure, mais il était en nombreuses compagnies, sans faire la liste exhaustive parce que vraiment il y avait une sacrée liste. Signalons que cette même médaille avait été décernée dans la même charté au commissaire Rabah Souchi, qui était chargé des opérations du maintien de l'ordre, au cours desquelles Geneviève Leguet avait été projetée au sol et sacrément blessée. Vous vous souvenez, c'était cette nana de attaque qui avait peut-être 75 ans ou quelque chose comme ça. Et c'était le moment où Macron s'était permis une sorte de plaisanterie paternaliste, ultra méprisante, dégueulasse. Là, à son âge, elle ferait mieux de faire autre chose que des manifs. Alors, dans la même charté de médailles, on avait aussi eu le commandant divisionnaire Dominique Caffin, qui faisait partie des CRS, qui avait matraqué plusieurs personnes dans un Burger King à Paris, qui avait été filmé, ça aussi, ça avait fait un peu scandale. On a encore Grégoire Chassin, le commissaire qui donnait l'ordre, 5 jours plus tard, d'utiliser des lacrymos à Nantes sur la foule où se trouvait Steve Maya Canisso, dont on a retrouvé le corps dans la Loire quelques semaines plus tard. Bref, tous les flics qui... Tous les chefs de compagnies de flics ou de détachements de flics qui ont fait des trucs vraiment, vraiment craignos, ils ont tous eu cette médaille. Le pouvoir sous forme de le gouvernement, le président, les ministres, tout ça, ils n'ont pas toute latitude d'agir sur les juges. Les juges sont théoriquement indépendants et parfois, très très rarement, il peut arriver que la justice demande des comptes aux flics. Ça se passe pas très souvent, mais ça peut quand même arriver. Mais ce que le gouvernement peut toujours, c'est déjà donner des signes de sympathie aux flics dont l'enthousiasme dans la répression les fait quelquefois un peu sortir du code de déontologie ou tout simplement de ce qu'il aurait légalement autorisé, c'est-à-dire juste sortir de la loi. Et là, le gouvernement, à ce moment-là, il faut qu'il montre qu'il soutient, quoi qu'il advienne, il soutient. Là-dessus, on va s'arrêter, mais juste, on va quand même rappeler que c'est un ministre de ce même gouvernement qui a parlé d'énormes montées de la violence et qui utilise ce mot d'ensauvagement. Pas à ce propos des flics.
Canu Info.
Et tiens, peut-être de nouveaux candidats, candidates à la promotion chez les flics. C'est Mediapart, cette fois-ci, qui nous raconte l'histoire suivante. Ça se passe au centre de rétention de Saint-Exupéry, et ça se passe dimanche dernier. Alors, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde au centre de rétention de Saint-Exupéry. Comme dans les autres, d'ailleurs, c'est parce que les capacités d'accueil ont été réduites à cause du Covid. Bon, elles sont quand même utilisées au max, hein. C'est-à-dire que là, c'est décidé qu'il y a 52 places possibles à Saint-Exupéry. Bon, il y a 51 personnes retenues. Et enfin, peut-être que là, il y en a déjà 52. Dimanche, il y en avait 51. En tout cas, on pourrait se dire étonnamment, mais ça a l'air d'être ça. Ça donne une situation qui est finalement plus tendue que d'habitude. Et donc, dimanche, le ton est monté à un moment entre des retenues de nationalités différentes. Le ton est monté assez pour qu'il y ait des flics qui interviennent. Une brigade de flics. Bon, les flics arrivent, là, tac, tac, là, les choses se calment. Tout le monde va pour rentrer dans sa chambre. Et là, un jeune détenu, Oussem Bokok, a crié un truc. Alors, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il a crié un truc en arabe, une insulte, semble-t-il. Et là, c'est le camarade de cellule de Oussem qui raconte. Les policiers, qui raconte aux journalistes de Mediapart. Hein. Les policiers ont entendu ce qu'il a dit et l'un d'eux a compris le mot en arabe. Ils nous ont fait sortir d'une chambre où on était trois et ils ont fait rentrer Oussem. Après, ils se sont enfermés avec lui. Je pense qu'ils étaient 8 ou 9. Il y a eu beaucoup de cris, mais je crois pas qu'il les frappait à ce moment-là. Bon, Oussem lui dit qu'à ce moment-là, il a pris des coups de ceinture. Après, les flics l'embarquent au mitard. Alors, c'est un centre de rétention, c'est pas une prison, il n'y a pas de mitard. Il faut pas oublier, c'est quand même pas pareil. Une prison, c'est un truc pour punir les gens. Un centre de rétention, c'est pas du tout ça, c'est juste un truc administratif. Il n'y a pas de mitard.
C'est ça, et sauf que légalement, ils n'ont pas le droit à ce qu'il y ait un mitard.
C'est ça. C'est juste qu'ils n'ont pas le droit à ce qu'il y ait un mitard. Mais il y a une chambre d'isolement. Alors, disons que la différence tient entièrement dans la dénomination. Hein, voilà. Mais, alors maintenant, c'est Oussem Bokok qui raconte ce qui se passe dans cette chambre d'isolement, qui raconte par téléphone à Mediapart. Quand on est arrivé, dit-il, un policier a trébuché et il a failli tomber, ça l'a énervé, et il m'a fait tomber, moi. Il m'a cogné 3 fois ma tête au sol, et ils ont commencé à m'étrangler et à me mettre des coups de poing. Ils sont trois à m'avoir frappé. Il y avait une caméra dans la pièce, la police peut vérifier ce que je dis. La police aux frontières, qui a la responsabilité en France des centres de rétention, conteste formellement ces violences. Incroyable. Selon sa version, qui est livrée en fait pas directement par la PAF, mais par la préfecture du Rhône, cette personne, donc Oussem, a refusé de regagner sa chambre et elle a insulté un fonctionnaire de police, ce qui constitue un trouble à l'ordre public. Elle a été placée pour cette raison à l'isolement. Il n'y a pas eu de violence. Aucune violence. C'est la préfecture qui le dit, ça doit être vrai. Mais alors, on ne sait pas exactement pourquoi, dans ce cas, Oussem Bokok a reçu des soins peu de temps après son placement en isolement. Il avait quand même de multiples contusions. Un médecin l'a examiné lundi après-midi. Il a constaté des hématomes, parfois de 3 à 4 cm de diamètre, des abrasions au visage et aux chevilles, ça veut dire qu'il était râpé, quoi. Mediapart nous dit 4 jours d'ITT sous réserve de complications ultérieures. Dans un premier temps, 4 jours, mais après, on verra. Le personnel du centre... Les personnels du centre qui ont pu voir le retenu après sa sortie de l'isolement étaient effarés, rapporte l'un d'eux, par les traces laissées sur le visage notamment. Ce matin, c'est aujourd'hui, l'article date d'aujourd'hui, Oussem Bokok ne pouvait toujours pas ouvrir l'œil droit. Là, quand même, ça fait un peu de foin dans le centre. Plusieurs professionnels de services différents préviennent le directeur qu'il y a quand même là, il y a vraiment un problème. Le directeur vient voir Oussem à l'infirmerie. Et c'est là qu'on apprend dans l'article que la brigade de flics qui sont intervenus ce jour-là, mais en fait, ils sont déjà pas mal connus exactement pour ce genre de pratique. Un autre retenu raconte que c'est les mêmes flics qui l'ont laté après une micro-histoire pour du rab au réfectoire. Ils l'ont laté et puis après ils l'ont attaché à un lit dans une de ces chambres d'isolement pendant 21 heures. Et bon, dans les chambres d'isolement, il y a des caméras qui sont censées en tout cas fonctionner tout le temps. Alors pour le moment, on n'a pas d'infos que qui que ce soit, le directeur du centre, le procureur ou qui que ce soit, ait demandé des enregistrements de ces caméras. Bon, enfin bon, c'est pas parce que moi j'ai pas d'infos qu'ils l'ont pas fait. Hein. Ça vaudra quand même le coup de suivre un peu l'histoire. Un autre retenu explique qu'il a fait plusieurs centres de rétention et qu'il y a des flics avec lesquels les rapports sont, comme qui dirait, normaux. Bon, voilà, il y a un côté de la barrière et l'autre côté de la barrière. Mais lui, il dit, quand c'est cette brigade, ils arrivent en disant des ta gueule, des vos gueules, rentrez dans vos chambres, les autres sont tranquilles, eux, c'est des racistes. Voilà, c'est ce que lui dit, c'est-à-dire que vraiment, il y a ce groupe de flics qui bossent ensemble et qui sont connus pour être, pour être hyper agressifs avec les gens, quoi. Bon, une plainte à déposer, allez savoir jusqu'où elle va aller. L'article de Mediapart nous dit encore, ce matin, donc aujourd'hui, Oussem n'a pas réussi à se lever. Son compagnon de chambre a demandé au policier s'il était possible qu'il revoie un médecin. Il n'a pas obtenu de réponse. La brigade de service était la même que celle qui était intervenue dimanche à midi. C'est quoi déjà là ce qu'on disait sur l'ensauvagement ?
Radio Canu.
102.2.
La plus rebelle des radios.
Info. Cette fois-ci, c'est aux États-Unis où un enfant autiste a été gravement blessé par un agent de la police de Salt Lake City après que sa mère, la mère du gamin, a lancé un appel à l'aide. Alors, Lyndon Cameron, il a 13 ans. Et il était en crise de détresse mentale quand, du coup, sa mère qui débordait... Elle a appelé le fameux 911. Si vous regardez n'importe quelle série américaine, les gens ils appellent toujours 911. Donc, en gros, ça veut dire il a le police secours, quoi. Et elle a appelé parce qu'elle avait besoin d'aide pour le maîtriser et le faire hospitaliser. Et du coup, c'est elle qui dit, qui raconte sur une chaîne locale de Salt Lake City, qui dit qu'elle leur a précisé, il n'est pas armé, il s'énerve juste et commence à crier. C'est un enfant, il a besoin d'attention. Quand les flics sont arrivés, le gamin est parti en courant. Un policier, ma foi, c'est ce que fait un policier américain dans ce cas-là, il lui a juste tiré dessus à plusieurs reprises. Au cours d'une poursuite à pied, un officier a fait feu avec son arme et a atteint cette personne. Ça, c'est ce que nous dit l'officier de police qui fait la conférence de presse derrière. Bon, le gamin a quand même des blessures à l'épaule, aux intestins, à la vessie, aux chevilles. Autant dire que le flic l'a criblé de balles. La mère, toujours à la radio, dit c'est un petit enfant, pourquoi vous l'avez pas juste plaqué au sol? Le gamin, il a 13 ans, les flics ils sont obligés de lui tirer dessus pour l'arrêter. Alors, les flics nous disent que le gamin était suspecté d'avoir menacé des personnes avec une arme. Mais bon, ce même flic qui fait la conférence de presse, là, il est quand même bien obligé d'avouer qu'aucune trace d'arme n'a été relevée. À ce stade, précise-t-il, hein, parce qu'on sait jamais, des fois qu'à force de chercher sur le mètre carré où il est tombé, on finisse par trouver. Alors voilà, tout ça se passe dans un pays qui est plongé dans un mouvement historique contre les violences policières. Et du coup, ma foi, toutes les histoires de Black Lives Matter, tout ça. Alors là, ce qui se passe quand même, c'est que Lyndon Cameron, il est blanc. Mais pour un flic américain, bah, ma foi, handicapé, c'est quand même un peu comme noir, même si finalement on a la peau blanche. Alors je dis un flic américain, parce qu'on sait déjà que plein de gens, des journalistes, des politiques en France vont venir nous expliquer à la radio, à la télé, qu'on ne peut pas faire de parallèle. L'Amérique, c'est l'Amérique, la France, c'est la France, c'est pas pareil du tout. Ces gens-là auront certainement oublié, par exemple, Serge Partouche, qui lui aussi était autiste, lui aussi en crise. C'était en septembre 2011, le jour où des flics français ont voulu l'interpeller, et Serge Partouche est mort. Mais c'est vrai, la France, c'est pas l'Amérique. Il est mort, mais pas parce qu'il s'est fait flinguer. Il est mort parce qu'il a subi ce très fameux plaquage ventral avec prise d'étranglement. Voilà, pour Serge Partouche, les flics ont été condamnés 4 ans plus tard à 6 mois de prison avec sursis. Et puis, ils ont fait appel quand même.
Radio Canu.
Alors, on va parler parité et pluralité politique dans les médias, notamment dans les matinales radio. C'est Acrimed qui a mené une enquête statistique sur les invités des matinales radio des principales chaînes nationales, à savoir France Inter, RTL, RMC, France Info et Europe 1, sur la période particulière qu'a été le confinement, et ce pendant un mois et demi, c'est-à-dire du 17 mars au 30 avril. Ces matinales cumuleraient à peu près 5 700 000 auditeurs chaque matin, c'est-à-dire que ça, c'est quand même un gros bassin d'auditeurs, et donc l'impact est assez important de ces invités. Alors la première des conclusions de cette observation, c'est une inégalité de genre qui est assez criante, puisque sur l'ensemble des radios, les hommes constituent en effet 81% des invités, soit plus de 4 sur 5. Une tendance qui se vérifie chaîne par chaîne, les hommes cumulent 73% des fauteuils sur France Inter, 76% sur France Info, 84% sur Europe 1, ce qui représente 94 hommes et 18 femmes, et même donc 88% et 89% sur RMC et RTL. Alors, dans certains domaines, le fossé est accentué. Par exemple, sur 45 invitations passées au secteur business, 44 ont été données. L'antenne a été donnée pour 44 à des hommes. C'est pareil chez les universitaires, où les hommes ont occupé 12 des 14 fauteuils d'invités. Certes, il n'y a pas eu beaucoup d'invités du domaine culturel, on y reviendra tout à l'heure, mais sur le peu d'écrivains, artistes, organisateurs, organisatrices de festivals qui ont été invités, il n'y a eu absolument aucune femme. Quant au... Alors, c'est vrai que dans la culture, il n'y a pas de femmes.
Hein. C'est rigolo, parce qu'en parlant, tu dis organisateur, organisatrice, mais en fait,
mais en fait juste organisateur. Elles n'organisent pas de festival. Non, jamais. Alors, quant aux 101 fauteuils accordés aux politiciens sur les différentes chaînes, 67 furent occupés par des hommes et 34 par des femmes. Bah oui, il y a des quotas au gouvernement, donc forcément, ils sont bien obligés de les inviter. Ça fait quand même presque moitié moins. Alors, autre résultat important de l'analyse, la grande pauvreté du pluralisme politique dans les matinales radio. La République En Marche cumule plus de la moitié des fauteuils, 55 sur 101, donc, dont 4 fois un député et 51 fois un membre du gouvernement. Bon, il faut dire qu'il y avait pas mal de mesures à présenter, mais enfin quand même. S'y ajoutent 3 invitations de représentants politiques étiquetés UDI ou MODEM, c'est-à-dire alliés à la majorité. Les Républicains, membres actuels ou ex-républicains, cumulent 24 passages, soit un quart des invitations, et le Rassemblement National, 5 invitations. Au total, les libéraux et l'extrême droite auront donc, pendant un mois et demi, capté 86% des invitations politiques des 5 principales interviews matinales de France. Les matinales ont aussi été particulièrement nulles pour parler de l'international, hormis une ministre allemande. À une femme, tiens. Et une seconde espagnole, les radios ont très peu tendu le micro à des personnalités étrangères pendant la période étudiée, alors que peut-être le contexte de pandémie mondiale le justifiait légèrement. Alors, quand des points de vue extra-hexagonaux ont été représentés, ça a été exclusivement ceux des hauts responsables libéraux des institutions européennes, finalement. Ah, par ailleurs, c'est pas très étonnant, mais les chiffres d'Acrimed le soulignent, le pluralisme en prend aussi un coup quand il s'agit de la représentation du patronat par rapport aux salariés. Les chefferies entrepreneuriales, donc la catégorie business, et leurs représentants syndicaux, FNSEA, CPME, MEDEF, qu'on ne va pas considérer comme des syndicaux quand même, représentent à elles seules 17% des invités contre 1% pour les représentants des salariés CGT et CFDT. Parce que les travailleurs n'avaient rien à dire pendant cette période de confinement.
C'est clair.
Alors le service public, on pourrait penser qu'il fait un petit peu mieux, parce que quand même, ils sont touchés. France Inter et France Info se sont particulièrement illustrés dans cette affaire, puisque France Info s'est offert le MEDEF par le biais de Geoffrey Roux de Bézieux, là, le 23 mars, mais il a oublié de convier le moindre syndicat de travailleurs sur toute la période. Sur France Inter, il semble aussi plus évident d'inviter la Confédération des petites et des moyennes entreprises ou la FNSEA qu'un syndicat de travailleurs, même si la CFDT sera certes reçue une fois. De même, il n'est venu à l'esprit d'aucune de ces deux stations, ni d'aucune autre d'ailleurs, d'inviter un syndicat enseignant, tant il est vrai que l'école fut une problématique mineure au cours de la période. Mais rassurons-nous, Jean-Michel Blanquer n'a pas été oublié. 3 invitations sur RMC, Europe 1 et RTL. On trouvera évidemment pas non plus de travailleurs lambda, et alors pas question d'avoir le moindre inspecteur du travail. Europe 1, qui accueille 29 des 45 patrons présents dans la base de données récoltée par Acrimed, affiche le déséquilibre le plus flagrant. Et enfin, la culture qui a été complètement laissée de côté. Je le disais tout à l'heure, 5 invités culturels sur ces 5 chaînes en un mois et demi. Si l'on regarde dans le détail, on constate qu'il s'agit de 5 hommes et 5 pontes du secteur. Alors on a Luc Barruet et Olivier Py, respectivement directeur des Solidays et du Festival d'Avignon. Le violoniste Renaud Capuçon, invité pour ses vidéos postées sur les réseaux sociaux. Et deux écrivains très médiatiques, Philippe Lançon, qui est intervenu en tant que président du Livre Inter, et Sylvain Tesson, intervenu pour avoir fait plusieurs fois l'expérience de moments de solitude, choisis ou non, qui livrait sur la même antenne ses réflexions métaphysique, un énième épisode des feuilletons de la bourgeoisie confinée.
Sylvain Tesson, par ailleurs, c'est quand même plutôt un facho, non ?
Je pense que c'est plutôt un mec de droite, facho, je sais pas, mais...
C'est celui de la Panthère des Neiges.
Oui, ouais, tout
ouais,
à
c'est
fait.
Ça, c'est pas vraiment un ami à nous. On l'invitera pas au Canada.
Non, ça tombe bien, on fait pas de matinale.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, donc ça nous représente un petit panorama de la matinale du confinement qui est pas très glorieuse.
Écoutez. À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des limites par terre. Dès que les lois mises en place.
Blabla, info contre la magie.
Cette nuit, le camp de réfugiés de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce a pris feu. Pour l'instant, il n'y a pas de morts, mais des blessés légers à cause des fumées. En revanche, les lieux sont calcinés. Plus de 3000 tentes, des milliers de containers, des bureaux de l'administration et une clinique a complètement pris feu. Alors, le camp de Moria, c'est l'un des pires d'Europe. Il hébergeait ces derniers temps près de 12 700 demandeurs d'asile, c'est-à-dire 4 fois sa capacité d'accueil. Des centaines de demandeurs d'asile ont fuyé à pied dans la nuit vers le port de Mytilène, mais ils ont été bloqués par les véhicules des forces de l'ordre. D'autres se sont abrités dans les collines environnantes du camp. Mais une association, Stand My Lesbos, qui regroupe locaux et réfugiés, s'alarmait sur Twitter. Tout brûle, les gens fuient. Certains témoignages rapportent que des locaux bloquent le passage des réfugiés dans le village voisin. Pour rappel, en juin dernier, Stelios Petessas, le porte-parole du gouvernement grec, qualifiait le camp de Moria de bombe sanitaire à retardement. Depuis mars, les ONG demandent l'évacuation du camp, alors que les autorités grecques ont surtout renforcé les murs. D'après l'agence de presse grecque ANA, les feux auraient été déclenchés suite à les révoltes de certains demandeurs d'asile qui devaient être placés en isolement, ayant été testés positifs au coronavirus ou ayant approché une personne ayant été détectée positive. Alors depuis la mi-mars, de strictes mesures de circulation et d'enfermement ont été imposées dans les camps de migrants. On en parlait un peu avant l'été. Des structures qui ne sont pas du tout adaptées pour mettre en place les mesures barrières nécessaires. Le gouvernement n'a jamais levé ces restrictions, malgré les critiques des ONG et des droits de l'homme, jugeant ces mesures discriminatoires, alors que la décision a été prise de déconfiner le pays début mai. Mais au-delà du contexte de la pandémie, le camp de Moria a été ces dernières années à maintes reprises décrié pour son manque d'hygiène, son surpeuplement, et les autorités grecques ont été régulièrement interpellées par les ONG pour transférer les demandeurs d'asile les plus vulnérables vers le continent. Les émeutes et bagarres sont devenues quasi quotidiennes dans le camp de Moria. De janvier à fin août, 5 personnes ont été poignardées dans plus de 15 attaques. Et en mars dernier, une fillette avait perdu la vie dans un conteneur brûlé. En septembre 2019, donc il y a un an, 2 personnes étaient également décédées dans un incendie. Alors, l'Union européenne se réveille un peu tard et découvre le camp, s'inventant des priorités. La Commission européenne a annoncé ce midi qu'elle prenait en charge le transfert immédiat vers la Grèce continentale de 400 enfants et adolescents se trouvant dans le camp. Et la commissaire chargée des affaires intérieures, Ivla Jonasson, précisait je cite, « mettre en sécurité et à l'abri toutes les personnes se trouvant à Moria est une priorité ». Voilà, ça l'est devenu aujourd'hui, c'est une priorité de s'occuper de ce camp. Il a fallu qu'il brûle pour ça quand même. Et elle précise être en contact avec les autorités grecques, donc on ne sait pas bien ce qui se passe, mais ouais, ils sont en contact. Alors, quitte à devoir se mouiller, la Norvège par exemple préfère choisir où ira sa générosité. Elle a annoncé qu'elle accueillerait 50 occupants du camp, en premier lieu, je cite, des familles originaires de Syrie. Voilà, les bons réfugiés versus les mauvais.
Et quand même, pour préciser un peu le contexte, j'ai lu qu'il y avait aussi des... Un peu comme on en avait parlé la semaine dernière à Mayotte, mais il y avait des gens qui bloquaient, qui empêchaient les migrants de sortir ou de se réfugier ailleurs, et qui ralentissaient également les pompiers d'accéder sur le site. Voilà, un peu l'ambiance.
Il faut que ça sache.
Et comme d'habitude, la rubrique faut que ça sache, c'est un peu la rubrique des mauvaises nouvelles. On en parlait la semaine dernière. Un cargo baptisé Maersk Etienne a secouru sur demande de Malte il y a plus d'un mois 27 personnes en détresse sur un canot de fortune. Depuis ce temps, alors qu'ils sont proches des côtes maltaises, le gouvernement de La Valette refuse de les autoriser à débarquer, ce qui donne lieu à plusieurs coups de gueule de l'Union européenne restés sans suite de la part de Malte. Dimanche, alors que sur le navire, le personnel et les rescapés sont à bout de nerfs depuis quelques temps, trois personnes ont décidé de se jeter à l'eau. Ils ont heureusement été vite secourus et remontés à bord. C'était pas garanti hein, quand même. On précise que quand même il y a un paquet de gens qui montent sur ces canots en Méditerranée et qui après se font secourir, qu'ils ne savent pas forcément nager, par exemple. Le Maersk Etienne détient désormais le triste record du temps d'attente de délivrance d'un port sûr. Le risque dans tout ça, au-delà de la situation des personnes déjà à bord, c'est que dorénavant, les navires commerciaux détournent le regard quand ils seront face à des personnes en détresse ou alors qu'ils reçoivent un appel radio. Parce que quand même, on imagine bien que les patrons du Maersk Etienne qui semblent pour l'instant plus se soucier, en tout cas dans leur déclaration, du sort des personnes à bord que de leurs finances, quand même, on imagine qu'il y en a un paquet qui vont se dire non, en fait, là, juste, c'est pas possible, la situation va pas être tenable. De son côté, Amnesty International, alors indépendamment à ça, mais quand même, c'est quand même en lien, a pondu un rapport de 35 pages en anglais. Bon, alors, ces deux raisons font que j'ai pas pu le lire. Mais d'après les éléments transmis à la presse, l'ONG dénonce, je cite, le gouvernement maltais qui a eu recours à des mesures dangereuses et illégales pour faire face aux arrivées de réfugiés et de migrants en mer, avec comme stratégie élaborée l'organisation de refoulements illégaux vers la Libye, le détournement de bateaux vers l'Italie plutôt que le sauvetage de personnes en détresse et la détention illégale de centaines de personnes dans des ferries mal équipées au large des eaux maltaises. Alors que l'accord conclu entre Malte et la Libye fin mai n'a fait qu'exposer de manière encore plus brutale les migrants à la politique migratoire de Malte et de l'Union européenne, Amnesty conclut son rapport que l'ensemble de ces faits a vraisemblablement conduit à des morts évitables, à des détentions arbitraires et des retours illégaux vers la Libye. Alors, toujours sur fond d'accord de pays européens avec la Libye, que ce soit Malte avec l'accord dont je parlais juste avant et l'Italie avec un accord renouvelé avec les autorités libyennes en février 2020, une centaine d'ONG et individus dont, pour ceux qu'on connaît en France, Open Arms, Sea-Watch, Migre Europe, Gisti pour groupe d'information et de soutien des immigrés, Alarmphone, etc., ont écrit une lettre ouverte à l'Organisation Maritime International, autrement appelée, ce que je vais les reciter plusieurs fois, OMI. Il s'agit d'une organisation des Nations Unies, alors qu'il n'y a pas pour but de s'occuper des migrations, mais vraiment de s'occuper des zones maritimes, quoi. Alors, ils ont écrit cette lettre pour lui demander la fin de la zone SAR libyenne. Cette zone est la zone de secours et de recherche. SAR, c'est Search and Rescue, où les missions de sauvetage ont le plus souvent lieu. Alors, comme c'est pas des salauds, hein, les ONG, ils n'ont pas demandé la fin pour que cessent les missions de sauvetage, mais pour que cesse un peu le dévoiement de cette zone. En gros, cette zone a été décrétée zone SAR par la Libye en 2017, et le texte souligne les effets que celle-ci a entraîné entraîner en termes de pratiques étatiques contraires à l'éthique en Méditerranée. De telles pratiques constituent des violations de droits humains, voire des crimes d'État qui sapent le droit de la mer en tant que mécanisme d'assurance universelle pour les personnes qui sont en mer et les marins en général, et entraînent des refoulements vers la Libye qui sont illégaux en vertu du droit international. Les demandes des ONG reposent sur les éléments suivants. Alors, la Libye n'est pas un port sûr. Bon, ça, on n'apprend rien, mais quand même, ça vaut toujours le coup de le souligner. Et n'offre aucun port sûr pour le débarquement des migrants compte tenu de la guerre civile en cours. Cela devrait exclure la possibilité de lui attribuer une zone SAR. En gros, là, ce qu'il dit, c'est ça peut pas être un endroit où dans cette zone on puisse rapatrier des gens qui ont été secourus. La garde-côte libyenne est notoirement inadaptée aux tâches qui lui sont assignées, tant sur le plan matériel qu'éthique. Alors bon, ce qui est un peu rigolo là-dessus, c'est quand même sur le plan matériel, ils ont été largement fournis et aidés par l'Union européenne. Le MRCC, qui est l'organe qui est censé centraliser les appels de détresse libyens, ne répond pas souvent aux appels de détresse. Il est coordonné par des moyens italiens et maltais et européens, sans parler du fait que certains des membres de la garde-côte libyenne ont été clairement identifiés comme faisant partie des trafiquants en Libye. En vue des exactions commises à l'encontre des retenus dans les centres de rétention libyens, le texte demande à l'OMI de consulter les rapports spéciaux des Nations Unies dont elle fait partie, qui étayent tous ces faits. Et pour finir, le texte rappelle que cette zone SAR permet surtout aux États comme Malte et l'Italie de ne pas agir quand des bateaux sont en détresse sous prétexte qu'ils se trouvent dans cette zone libyenne qui est donc soi-disant placée sous responsabilité libyenne. Ce qui n'empêche pas du tout, quand un bateau croise une embarcation en détresse, n'importe où il se trouve en mer, qu'il soit dans la zone SAR, dans des eaux territoriales, machin, il a comme obligation de secourir des gens qui se trouvent en détresse, quelle que soit la situation. En gros, pour résumer, le texte demande à... j'ai écrit l'OIM, parce qu'il ne faut pas confondre l'OMI, qui fait office d'autorité, de révoquer cette zone afin que la Libye perde de son influence et du pouvoir sur cette zone et que les pays européens ne puissent plus s'appuyer là-dessus pour faire croire qu'ils gèrent de manière humaine les personnes qui tentent cette dangereuse traversée. Alors c'est vrai que dans le texte, là, ça parle beaucoup de Malte et de l'Italie, qui sont un peu en première ligne dans ces trucs, mais quand même l'Union européenne en général est quand même responsable de la situation, du fait qu'ils ont continué, notamment par Frontex, à former les gardes-côtes libyens, à leur fournir des bateaux pour aller secourir les gens, tout ça, tout ça.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va se faire une petite pause musicale.
Amatomic Production. Avec mes copines, on hâte de piloter le jet. Pour ça, pas besoin de minauder. Tu m'as marqué sous ma parka, je me suis cambré pour un high kick. Aïe aïe aïe, tu l'avais pas vu venir. Va que va, j'effacerai vos sourires. T'es tenace, mais je suis bien pire. La menace, elle vient d'en bas. Vos engins sont ruinés, éclabousse vos principes. Je pousse un soupir de plaisir. Niquer l'état, braquer la banque. Pousser dans le tas, et que vivent les banques. Et que vivent les banques, et que vivent les banques.
Les gosses et d'un mec. Les dagos c'est d'un mec, les dagos c'est d'un mec, les dagos c'est d'un mec, les dagos c'est d'un mec,
ni d'un mec,
les dagos c'est d'un mec,
les dagos c'est d'un mec,
les dagos c'est d'un mec.
J'ai la rigueur d'un taulard, j'quitte mon malheur tous les soirs, j'monte la chaleur jusqu'à tard, j'quitte ma torpeur, j'prends ma part. Rejoins sur la piste, tu touchera si je t'autorise. J'ai jamais tort, sauf quand je me trompe. Avec mes coffres, on ira manger le monde. On ira manger le monde, on ira manger le monde. En attendant, je tourne en rond dans un 3 mètres carrés. C'est mieux que 9 mètres carrés. Maton derrière l'œil ton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré. En attendant, je tourne en rond dans un 3 mètres carrés. C'est mieux que 9 mètres carrés. Maton derrière l'œil ton, à t'en rendre taré, à t'en rendre taré.
Le gosse est un mec, hein.
c'est d'un mec. Les dagos, c'est d'un mec.
Alors, c'était Pissenlit par Rature, qui est une musique qui est parue pendant le confinement. Le clip nous montre bien à quel point c'était cheap.
Et on va finir ce Canu Info par un député La République En Marche.
Écoutez, c'est une petite histoire pour terminer le Canu Info. Je le me présente comme si c'était rigolo, mais il y a quand même au moins une personne pour qui ça ne doit pas être rigolo du tout, du tout, du tout.
Pour la femme en question.
Oui, c'est ça. Évitez d'épouser un député ou un futur député de La République En Marche. Vous allez voir. Donc, il était une fois un député, La République En Marche, que son épouse était en train de larguer. Le tribunal avait attribué, pour le temps de la procédure, le domicile conjugal à madame et avait alors également fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence. Mais monsieur était député du grand parti présidentiel et monsieur n'allait pas se laisser dicter sa conduite par un petit juge aux affaires familiales. Donc, il décida de troubler sa conjointe dans sa résidence. Alors, le premier préjugement là, qui attribue le domicile à madame et qui dit de ne pas troubler, là, date du mois de mai. Mais voilà, ce monsieur, attendez, mais normalement on devrait avoir son nom quelque part, mais je l'ai...
Ah, t'as voulu conserver son anonymat.
Ben non, pourtant. Ah, il s'appelle Benoît Simian. Alors, ce monsieur, Benoît Simian, ça l'a énervé que le tribunal fasse ça. Du coup, il a commencé quand même par aller tout le temps voir sa femme. Et puis, quand elle lui a pas ouvert, il a essayé de défoncer les serrures qu'elle avait changées. Le 29 juillet, son épouse le surprend en train de défoncer le trou d'une chatière. Il essaie donc de passer par la chatière qu'elle avait justement bouchée avec des planches en bois pour l'empêcher de passer, le bonhomme. Le député pénètre dans le jardin pour aller, figurez-vous, se baigner dans la piscine, bon, habillé. C'était quand même vraiment histoire de marquer les esprits. Alors sa femme dit « Je me suis caché chez moi, j'étais terrifié, tu m'étonnes, il faut que ça soit les gendarmes qui viennent le sortir de la piscine. »
Oh là là.
Le 28 juillet, il décide de garer sa voiture devant le portail de la maison, c'est-à-dire vraiment d'empêcher d'ouvrir le portail. C'était le moment où sa femme aurait dû emmener sa fille aînée en voiture à un rendez-vous médical. Du coup, elle a appelé les flics qui sont venus chercher la bagnole. Ça a pris du temps. Les flics sont partis pour emmener la bagnole à la fourrière. Mais finalement, au bout de 20 mètres, il semble qu'ils aient reçu un coup de fil, même si eux, ils disent que non, ça n'a rien à voir. Ils ont plutôt juste bougé la voiture de devant le portail, mais ils l'ont laissé dans la rue, ce qui fait que lui n'a pas eu à payer la fourrière. Le 21 juillet, il avait demandé à Orange de fermer la ligne téléphonique de la maison. Alors là, heureusement, Orange a quand même demandé l'avis de madame sur ce coup-là et la procédure a été stoppée. Ben, Orange a fait toujours mieux que l'entreprise Gaz de Bordeaux. Ah, parce que le gaz, c'est le député de Bordeaux, tout ça se passe à Bordeaux. L'entreprise Gaz de Bordeaux qui s'est posé moins de questions avant de retirer le compteur de gaz après qu'il lui ait téléphoné. Bon, elle s'est aussi fait couper l'eau, elle s'est aussi fait couper l'élec. À chaque fois, c'est lui qui appelait. Vous voyez, je veux dire, c'est pas comme il s'arrivait jamais qu'une femme qui quitte son mari, le mari lui fasse des sales coups comme ça. C'est quand même déjà vraiment assez moche. T'as mais ce bonhomme,
faut être tendu quand même pour député, penser à tout ça, quoi.
Ben, tout à fait. Bon, alors je vous raconte pas tout, je vous raconte pas les images filmées par les caméras installées par sa femme, quand même, qui avait aussi besoin de preuves, et qu'il montre en train d'essayer de forcer les serrures. Je détaille pas non plus, par exemple, c'est la livraison de tonnes de gravier dans le jardin. Commandé donc par monsieur. Je vous assure que monsieur a de l'imagination, comme tu disais, quand même, quoi. Bon, du coup, le tribunal prend une décision qui lui interdit de s'approcher à moins de 3 km de la baraque. Il a pris cette décision tout début, le 3 août. Bah, dès le lendemain, qui voilà au portail ? Eh ben ouais, c'était lui. Une semaine plus tard, monsieur a un assistant parlementaire, et l'assistant parlementaire, lui, s'introduit dans une dépendance de la maison, dans le jardin, sous prétexte que ce bâtiment serait une permanence électorale. Prétexte que le tribunal avait déjà explicitement rejeté dans ses deux jugements précédents, parce que, du coup, lui, il avait dit « Ah ouais, mais le cabanon, c'est ma permanence électorale », le tribunal, il fait « Ouais, c'est ça, ouais ». Faut quand même pas trop se foutre de la gueule du monde. Alors voilà, La République En Marche et le féminisme, ben, c'est pas seulement... le ratage du finalement pas tellement fameux Grenelle des violences faites aux femmes. C'est pas seulement une politique qui est un peu comme celle de l'écologie, c'est-à-dire de grandes déclarations tonitruantes suivies de, ma foi, rien du tout. C'est aussi, tout simplement, pour Benoît Simian, comme pour Darmanin, un art de vivre.
Est-ce qu'il y a une procédure pour le harcèlement qui est...
Alors, mes infos à moi s'arrêtent là. Mais je pense que ce serait intéressant de taper son nom dans Google Actu dans les temps qui viennent. Parce que pour le coup, c'est ça. Pareil, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup mes infos avec Mediapart. Ça, c'est un long article de Mediapart qui raconte tout ça.
Et sur ce, nos infos touchent à sa fin.
Et ouais, dites donc, on a un quart d'heure de récré, et vous aussi, avec la merveilleuse musique des bandes continues.
C'est ça, et ensuite vous retrouverez...
du sérieux à nouveau.
Idée Noire, l'émission de l'UCL.
Bravo.
Alors, merci de nous avoir écoutés, et on vous retrouve la semaine prochaine.
Ciao.
C'était le canu info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.